3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Programme Double, un podcast de moins d'une heure diffusé une fois aux deux semaines qui vous présente deux longs-métrages ayant en commun une même thématique, un même acteur, un même réalisateur ou qui font partie d'une même franchise. Le but du podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro. Donc aujourd'hui, nous avons officiellement notre véritable premier programme double. C'est-à-dire que, comme j'expliquais dans la dernière émission, des années 30 jusqu'au début des années 80, les propriétaires de salles de cinéma présentaient deux films pour un billet. Le premier était un film qu'on appelle de série B, donc un film à petit budget qui était moins intéressant pour le public, et ça nous permettait de nous réchauffer jusqu'à ce qu'on arrive avec le programme principal, qui lui était le gros film qu'on voulait regarder. Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu ça qu'on va avoir, puisque nous allons avoir un programme double mettant en vedette des organismes biologiques sans corps et sans cerveau et dont le seul objectif est de vous consommer, même quand vous pensez être vous-même le consommateur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de The Stuff. Ça, c'est notre film de série B. C'est ce qui va ouvrir notre programmation. C'est un genre d'organisme biologique qui ressemble pas mal à de la guimauve liquide et qui est délicieux au goût. Le problème est le suivant. Est-ce que c'est vous qui le consommez ou est-ce lui qui vous dévore de l'intérieur? Par la suite, nous allons finalement voir le remake du film The Blob, donc la version 1988, qui, contrairement à son original, n'est pas un organisme extraterrestre, mais bel et bien un virus créé par des scientifiques américains comme arme bactériologique qui a muté dans l'espace et qui revient sur Terre affamé de vengeance. Donc, sortez vos ustensiles et préparez-vous à un programme délicieux, des plus palpitants, qui va être rempli d'humour, de ridicule, d'action et de violence comme seuls des films à petit budget peuvent vous présenter.
The stuff, the taste that makes you hungry for more. The stuff, taste that delivers.
Enough is never enough. Enough is never enough.
When I was a little girl, I didn't think there was anything that I liked better than ice cream. Now I'm a big girl, and I've decided there's something I like better. Much better. It's called the stuff. And believe me, enough is never enough.
The stuff is here now. Great new day sensation. Light and free now. We'll get you elevation. Enough is never enough. Enough is never enough of the stuff.
The stuff. The taste that makes you hungry for more.
We interrupt this presentation with the following urgent message.
Tonight, America is in grave danger. We are under alien attack by a popular dessert known as the stuff.
Here, Jason, take some.
No! Don't eat that!
There is something alive in there.
Tasty.
There's something alive in yogurt. It's called benign bacteria.
If the stuff is in your house, do not eat it. If you have it on your shelves, do not sell it. If you distribute this material, close your doors, make no more sales.
enough is never enough.
Donc, notre premier film aujourd'hui s'intitule « The Stuff » ou « Substance » en français, un film de science-fiction distribué en salle par la compagnie New World Pictures le 14 juin 1985. Ce film américain, qui a eu une sortie très limitée en salle, a hérité d'un budget de 1,7 million de dollars, mais malheureusement, à cause justement de la limitation dans laquelle il a été distribué en salle, il a été impossible de ramasser un box-office. Le film réalisé par Larry Cohen, ce réalisateur américain qui nous avait donné la trilogie des It's Alive et Q, est d'une durée de 87 minutes. C'est Paul Courta, un producteur américain qui nous a donné la première saison de Veronica Mars et qui a également produit deux films de la série Alien Nation, on parle de la série télé ici, soit Millennium et Body and Soul. C'est Larry Cohen lui-même qui s'est occupé de la scénarisation de ce film, au même titre qu'il a fait la scénarisation sur la trilogie des Maniac Cop, des It's Alive ou encore des Q ou A Return to Salem's Lot. Du côté de la distribution, eh bien, c'est un petit bijou ce film, surtout pour voir Michael Moriarty, Andrea Marcovici, Garrett Morris, Paul Sorvino, Scott Bloom, Danny Aiello, Patrick O'Neill, mais c'est surtout la batch de caméos incroyables qu'il y a dans ce film qui est intéressant à aller regarder. Brooke Adams, qu'on avait vu dans Invasion of the Body Snatcher en 79, Lorraine Landon, qu'on avait vu dans Maniac Cop 1 et 2, Abbé Vigoda, qu'on avait vu dans The Godfather, Anthony Perkins, qui faisait Norman Bates dans Psycho, Barbara Crampton, qu'on avait vu dans le film Reanimator et From Beyond, aux côtés d'un certain Jeffrey Combe, également, qui faisait partie de From Beyond et Reanimator, Eric Bogosian, qu'on avait vu dans Talk Radio, Patrick Dempsey dans Loverboy et Mira Sorvino, la fille de Paul Sorvino, qui se retrouvait sur le plateau de tournage alors qu'elle venait rendre visite à son père, Paul Sorvino, et qui a été utilisé comme extra. Le film commence dans un endroit glacial où on pourrait croire qu'on est dans la suite directe de la version de Danger planétaire ou de Blob de 1958. À cet endroit-là, des mineurs vont découvrir dans le sol une substance gélatineuse au bon goût qu'ils vont prendre et qu'ils vont commercialiser et qui va devenir du jour au lendemain le dessert favori des Américains. Menacés de ruine, les fabricants d'une compagnie de crème glacée vont faire appel à un détective, anciennement du FBI, afin de faire de l'espionnage industriel et découvrir les ingrédients qui font de The Stuff un aliment si populaire. Notre détective va découvrir durant son enquête que la substance en question n'a pas été créé, mais qu'il s'agit d'un organisme qui a été tout simplement pris dans le sol et qui, lorsque vous le consommez, prend possession de votre aide et vous transforme de l'intérieur pour que vous fassiez partie de son organisme. S'associant avec la jeune femme qui s'occupait de la promotion du dit produit et d'un jeune garçon dont la famille a été complètement prise sous le contrôle de The Stuff, eh bien, notre détective va chercher à mettre un terme à l'invasion de cet organisme tout en avertissant la population, avec l'aide d'un général américain, du terrible danger que représente ce dessert fort populaire. Are you eating it or is it eating you? C'était la phrase punch sur le poster du film The Stuff. L'inspiration du sujet est venue à Larry Cohen alors que celui-ci remarquait à quel point les gens à travers les États-Unis pouvaient manger n'importe quoi, même si c'était très néfaste à leur santé. Voulant ridiculiser la chose, bien, il va faire un film axé sur comment publiciser un produit et à quel point que les gens vont tout simplement acheter une publicité et non pas nécessairement un produit qui est bon pour eux. Armé d'un très petit budget, le metteur en scène Larry Cohen va se transformer en producteur à la Roger Corman et va même aller jusqu'à filmer des séquences dans Washington sans même avoir le permis de le faire. Et ça va paraître dans certaines séquences, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. À l'origine, Cohen veut demander au comédien Arsenio Hall d'interpréter le personnage de Chocolate Chip Charlie dans le film, mais malheureusement, les exécutifs de New World Pictures voulaient avoir quelqu'un de mieux connu, et c'est à ce moment qu'on va aller chercher l'acteur Garrett Morris pour le rôle. D'ailleurs, c'est pas la seule fois où la New World Pictures et Larry Cohen vont pas vraiment s'entendre sur la direction du film. En effet, les deux parties sont très mécontents l'un envers l'autre. Principalement New World Pictures qui, eux autres, s'attendaient à avoir un film vraiment d'horreur, alors que Larry Cohen leur donne un film qui est beaucoup plus une caricature et un sarcasme de la société d'aujourd'hui et ne prend pas le sujet vraiment au sérieux, alors que du côté de la New World Pictures, on vend le film comme étant un film typiquement d'horreur et non pas un film où l'humour va beaucoup plus désamorcer le sujet du film que ce qui était supposé être à l'origine. D'ailleurs, New World Pictures va être très déçu de la longueur du long-métrage parce qu'on voit ici que Larry Cohen a filmé énormément de scènes pour intensifier son sarcasme et son ridicule au niveau de la chose. Alors, ce qu'on va demander à New World Pictures, c'est de refaire le montage, de recompresser les images et de donner un résultat final beaucoup plus rapide et condensé, ce qui va faire en sorte que... Il y a beaucoup d'informations qui vont être mises à droite et à gauche en voix off, des informations que normalement on aurait eues dans des séquences qui avaient été filmées, mais qu'il faut passer absolument pour, dans le film pour pouvoir comprendre l'histoire. Donc, ça va enlever un certain mordant à l'action. Le film ne sera pas un grand succès rendu au cinéma parce que, comme j'expliquais il y a quelques instants, New World Pictures voulait un film d'horreur et donc on fait les publicités en film d'horreur. Cependant, du côté de Larry Cohen, on veut avoir une satire, une comédie et donc quand les gens se présentent dans la salle de cinéma, on a l'impression d'aller voir un film d'horreur, mais on ne sait pas ce qu'on va aller voir en réalité. Et malgré le fait que les critiques ont quand même été positives, la réception en salle était vraiment très négative. À un point tel que même New World Pictures a décidé de présenter le film dans quelques programmes doubles à travers les États-Unis et également dans des festivals, mais c'est à peu près la seule place où on va être capable de voir le film de Stoff sur le grand écran. Il y a différentes techniques qui vont être utilisées pour le stuff, surimpression d'images, on va utiliser de la vraie crème glacée, du vrai yogourt, on va utiliser une texture qui va permettre au stuff d'avoir une certaine densité et on va même aller utiliser des os de poisson pour justement donner une certaine texture au stuff, à un point tel que les acteurs qui étaient touchés par le produit, bien, entre chacune des scènes, s'en allaient se baigner dans une rivière à proximité, question d'enlever l'odeur de poisson qui était après eux autres. Afin de sauver des frais monétaires, notre ami Larry Cohen va même pouvoir emprunter la fameuse chambre à coucher que Wes Craven avait fait construire pour son film A Nightmare on Elm Street en 1984. Cette fameuse chambre à coucher où est-ce que le personnage de Johnny Depp va être avalé par son lit et par la suite, on va pouvoir voir une panoplie de sang sortir de ce dernier. Cette séquence-là, vous allez la voir dans The Stuff au moment où nos deux personnages principaux sont attaqués par le stuff et qu'un individu va entrer dans leur chambre à eux. Et finalement, c'est cet individu-là qui va se retrouver à se ramasser le stuff sur lui. On va même mettre le feu au décor, mais il n'y aura pas de dommages, inquiétez-vous pas. Larry Cohen était tellement déçu de certains des effets spéciaux du film qu'en bout de ligne, que la compagnie qui avait été embauchée, Effects Associated, eh bien, n'a reçu que la moitié du budget qu'il était supposé avoir, soit 8 000 $. Face à ça, la compagnie Effects Associated va poursuivre Cohen en cours, mais va perdre non seulement la première fois, mais va perdre en appel également, et Larry Cohen va s'en sortir indemne. Juste pour compléter une dernière petite anecdote, Larry Cohen prétend dans une entrevue que la première a eu lieu à New York pendant qu'un ouragan frappait de plein fouet la ville, ce qui expliquerait pourquoi il n'y avait pas beaucoup de gens à l'intérieur de la salle lors de la première du film. Avant qu'on parle des points forts, il faut dire la chose suivante. Lorsque vous allez écouter The Stuff, c'est bien important que vous compreniez que ce que vous allez voir, c'est deux choses. Un film à très petit budget. Donc, Larry Cohen, si vous n'avez pas déjà eu la chance de voir des films comme It's Alive ou encore Q, vous ne serez pas habitué à son style qui est très guérilla. C'est-à-dire qu'il va prendre une caméra, il va s'en aller à des endroits, il n'y a pas les autorisations pour filmer et il va filmer une séquence. Je donne un exemple. Dans le film de Stuff, on a notre personnage principal à un certain moment donné qui traverse une rue. Vous avez
un camion du stuff qui s'en vient dans sa direction et qui essaye de le frapper. On voit très bien que ça a été filmé en une shot. On voit très bien que c'était organisé parce qu'on n'avait pas les autorisations. On a mis la caméra sur la chaîne de trottoir. On a fait venir le camion, traverser le gars. Le gars fait juste sortir de là à la dernière seconde pour ne pas être frappé par le camion. Et on va filmer le camion qui ne peut pas arrêter dans le trafic parce qu'on ne peut pas arrêter le trafic étant donné qu'on n'a pas l'autorisation. Et on va le voir une séquence beaucoup plus loin, donc qui va démontrer à quel point que par moment, The Stuff a des problèmes à cause du mince budget dont il possédait. Donc, une fois qu'on sait ça, vous allez voir un film où le réalisateur a un point à dire, c'est-à-dire qu'on se moque du produit parce que tout ce qu'on veut montrer, c'est le ridicule de la chose. Et ça, bien, ça peut vous désarmer, surtout si vous vous asseyez dans l'optique de voir un film comme The Blob. Oui, le concept est pratiquement la même chose. La différence, c'est que là où The Blob était vraiment un film de science-fiction avec une base d'horreur, ce qu'on va revoir dans quelques instants, bien, dans le cas de The Stuff, c'est le contraire. C'est un film de science-fiction à base humoristique. Donc, c'est comme une grosse comédie d'une heure et demie où est-ce que les personnages ne prennent pas les situations au sérieux, où les personnages sont des plus caricaturaux, ce qui va être probablement, d'un côté, peut être un point positif, mais qui est également un point négatif au film. On assiste ici à un véritable film de série B. Donc, petit budget, petite histoire, petite mise en scène. Donc, il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire. Cependant, au niveau de la distribution, si on prend le film comme étant un film campy à la Batman 66, parce que les performances sont vraiment croquantes. Puis on voit aussi que Larry Cohen, le réalisateur, a beaucoup de plaisir à travailler avec son sujet. On pousse énormément sur les campagnes publicitaires, donc on voit un petit peu la réalisation et à quel point que, on peut vendre un produit sans même nécessairement vendre le contenu. Et c'est vraiment la force de Stuff. Il y a une petite atmosphère des années 50 à l'intérieur du stuff. Puis, je vous dirais, 90% des effets spéciaux du film sont vraiment impressionnants, surtout pour le budget dont le film bénéficiait. Le dernier point positif, eh bien, ça, il faut le donner aux gens de New World Pictures. Le fait de raccourcir le montage donne beaucoup plus de dynamique au film. C'est plaisant à regarder, ça se laisse bien écouter quand, bien sûr, comme je le disais tantôt, on accepte le produit pour ce qu'il est. Maintenant, du côté des points faibles, les personnages très caricaturaux, même trop caricaturaux par moment. Si on veut avoir un film sérieux, on va être déçu parce que ces personnages-là n'ont pas de crédibilité. Tout comme le contenu, finalement, du film qui n'a pas de crédibilité. Qu'est-ce que le stuff? C'est de la crème glacée? Si c'est de la crème glacée, pourquoi est-ce qu'on le met au frigidaire? C'est-tu du yogourt? C'est-tu de la crème marshmallow? On le sait pas. Le produit n'est jamais expliqué. On n'explique pas non plus d'où il vient le produit. Il vient-tu de l'espace? Il vient de la Terre? C'est pas spécifié. On sait où on le trouve. On sait où est-ce qu'il y en a en grosse quantité, mais on ne sait pas d'où il vient. On ne connaît rien du produit. On ne sait pas de quoi il est fait. Et on ne sait pas non plus comment il agit à l'intérieur d'une personne. Par moment, on entend notre acteur principal nous dire que, dépendant des gens, c'est un peu comme un virus. Il y a des personnes qui vont être rapidement dominées par le stuff et il y en a d'autres que ça ne fera aucun effet. Aussi, plus on en mange, puis plus l'effet devient addictif, donc on devient sous l'emprise du stuff. Mais encore là, on ne sait pas la quantité, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, c'est des choses qui auraient pu être intéressantes, surtout qu'on voit qu'à un moment donné, on va prendre le stuff et on va l'étudier au niveau scientifique. Sauf que si on l'étudie puis qu'on ne découvre pas que c'est un organisme biologique, j'ai comme un problème avec les scientifiques qui sont en train de l'étudier. Ils n'ont peut-être pas passé leurs études. Le scénario est quelque peu chaotique, manque de logique. D'ailleurs, même le montage par moment est inégal. New World Pictures a demandé à couper les séquences. On voit que c'est ici que ça va nuire beaucoup au film parce qu'à un moment donné, on a des jump cuts et on se dit « Wow, il me semble qu'on a manqué quelque chose ». Et ça amène aussi une autre problématique parce que le film manque de focus. Donc, il passe un peu dans toutes les directions et à un moment donné, ça devient tellement absurde que c'est impossible pour le spectateur d'être intégré dans l'univers du stuff et voire même jusqu'à un certain point, on a l'impression que la conclusion est totalement garrochée. Au niveau de la musique, eh bien, c'est le compositeur Anthony Goofen qui nous avait donné Deadly Eyes et Strange Ways qui va s'occuper de la trame sonore du film. Une trame sonore qui a été disponible une seule fois en vinyle sous l'étiquette Pure Destructive Records. mais j'ai pas malheureusement Danny, j'ai pas été capable de trouver l'information. Les jingles des publicités de Stuff, eux, vont être composés par le compositeur et musicien Richard Seaman.
Never enough.
Yum, yum. It's time for a tasty and refreshing snack. Promise to satisfy your hunger, your thirst, your sweet tooth. So visit our refreshment center now. Let's go! And now, on with the show.
If it had a mind, you could reason with it. If it had a face, you could look it in the eye. If it had a body, you could shoot it. Now, man is no longer the supreme being on this planet.
The organism is growing at a geometric rate. By all accounts, it's at least 1,000 times its original mass.
Nobody believes me about what happened tonight.
What did happen?
I want that organism alive.
I think you pissed it off.
The blob. Terror has no shape.
Et maintenant, notre programme principal, The Blob. connu sous le nom en français Le Blob, un film de science-fiction distribué en salle par la compagnie TriStar Pictures le 5 août 1988. Ce film américain de 95 minutes a obtenu un budget variant entre 9 et 19 millions de dollars, mais qui n'a obtenu au box-office qu'un maigre 8,2 millions au niveau international. Au niveau de la réalisation, c'est Chuck Russell, le seul réalisateur américain qui nous a donné A Nightmare on Elm Street 3, The Dream Warriors, The Mask et Eraser. C'est également lui qui va s'occuper de la scénarisation aux côtés de Frank Darabont. Frank Darabont qui est responsable des scénarios de The Fly 2, Freddy 3 et de Mary Shelley's Frankenstein. Et au niveau de la production, eh bien oui, le producteur américain Jack H. Harris est encore présent pour la troisième fois, lui qui avait produit déjà la première version du Blob en 1958, ainsi que sa suite en 1972, Beware the Blob. Et cette fois-ci, il est accompagné de Elliot Kastner, le producteur américain qui nous avait donné Angel Heart, Nomads et Saturne 3. Au niveau de la distribution, on peut retrouver Kevin Dillon, Shawnee Smith, Donovan Leitch, Jeffrey DeMunn, Candy Clark, Joe Seneca, Del Close et Bill Mosley. Le film commence dans une petite ville américaine sur le bord de la faillite où un vagabond va découvrir une météorite qui vient de s'écraser dans la forêt et il va y découvrir à l'intérieur une matière visqueuse qui s'agrippe à son bras. Transporté d'urgence à l'hôpital par un jeune couple d'étudiants accompagné d'un adolescent rebelle, le malheureux ne tardera pas à être la première victime de cette substance gélatineuse qui s'attaque alors à un des trois adolescents. C'est alors que les deux adolescents survivants vont essayer de ramasser des preuves pour prouver l'existence de cette gélatine mortelle qui commence à faire des ravages à travers la ville. Et soudainement, on va voir arriver l'armée américaine et on va découvrir que le blob n'est pas nécessairement une créature de l'espace, comme on l'avait vu dans le film de 1958 et dans sa suite en 1972, mais plutôt d'un virus créé comme arme biologique par l'armée américaine qui l'avait envoyé dans l'espace et qui, suite à une mutation, a tout simplement détourné le satellite à bord duquel il se trouvait et est tout simplement revenu sur la Terre. Donc, nous sommes en 1988, 30 ans après la réalisation du premier film de Blob en 1958, mettant en vedette Steve McQueen. Comme je disais il y a quelques instants, on va quand même suivre l'histoire du film original. On garde les points principaux, mais on modifie beaucoup de choses. Un, le blob n'est plus une créature extraterrestre, mais maintenant, il est une arme biologique qui a été créée par le gouvernement américain, qui revient sur la Terre et qui échappe au contrôle de ses créateurs. On va également changer quelque peu les personnages du film, c'est-à-dire qu'on va apporter des changements qui vont refléter beaucoup plus l'adolescence de la période des années 80. C'est pour cette raison que notre héros, qui dans le film original était un bon garçon, dans ce film-là est un véritable rebelle qui a des problèmes avec la loi, donc ce qui explique la raison pourquoi que les policiers pensent au début que c'est lui qui est responsable des différents crimes, mais que même à la fin, lorsqu'il va arriver avec la solution et qu'il va arriver également avec la vérité, eh bien, disons que les autorités ne vont pas le considérer vu justement le type d'individu qu'il est. Le scénariste Frank Darabont, qui est devenu depuis le temps un producteur et un réalisateur, va rencontrer pour la première fois le metteur en scène Chuck Russell en 1981, alors que les deux hommes travaillaient sur le drame fantastique Hell Night. Avant de travailler sur le blob, les deux hommes s'étaient retrouvés sur le plateau de tournage de A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, le troisième film de la saga de Freddy Krueger. C'est à ce moment-là que Chuck Russell, qui était le scénariste-réalisateur, s'était associé avec Darabont pour écrire le scénario de Dream Warriors. Après avoir terminé la scénarisation, eh bien la production débutera un 11 janvier et plus de 150 personnes occuperont au niveau distribution et équipe de production, le plateau de tournage en Louisiane. 90% au moins de la production du tournage a été effectué de nuit, c'est-à-dire que toute la production ainsi que les différents acteurs de la distribution se retrouvaient à dormir durant le jour pour pouvoir filmer le soir. Ce qui expliquait donc que lorsqu'on avait des soirées de congé, eh bien, au lieu de faire des activités le jour pour ne pas perdre le momentum, l'équipe continuait quand même à être réveillée de nuit et à dormir de jour. Donc, à ce moment-là, on restait dans la chambre d'hôtel et on écoutait des films à la télévision ou encore en vidéocassette dans les chambres à coucher. L'acteur Del Close, que l'on voit dans le rôle du révérend Meeker dans le film The Blob, avait également eu une petite prestation dans le film de Larry Hagman, Beware the Blob. Le fils de Steve McQueen, Chad McQueen, lui, également s'était vu offrir un rôle pour le remake de The Blob, mais malheureusement, il s'est retiré du projet, principalement à cause de deux choses. Un, il a détesté le scénario. Et deuxièmement, il a une politique de ne jamais jouer dans des films qui sont des suites ou des remakes d'œuvres dans lesquelles son père avait déjà travaillé à l'époque. Chuck Russell va s'inspirer de plusieurs films pour le remake de The Blob. Il va s'inspirer du film de Philip Kaufman de 1978, Invasion of the Body Snatcher, du film The Thing de 1982 de John Carpenter et finalement The Fly, le remake de David Cronenberg en 1986. Maintenant, parlons des points forts du long-métrage. Tout d'abord, le travail de prosthétique qui a été effectué par le concepteur d'effets spéciaux Tony Gartner, qui avait travaillé avec Rick Baker sur le vidéoclip de Michael Jackson Thriller et qui a également travaillé sur les films 127 Hours et Zombieland. Son travail est pratiquement exemplaire. Les effets spéciaux sont spectaculaires par moments, malgré le fait que, à d'autres moments, on semble avoir manqué de budget pour réaliser certains autres effets spéciaux qui, eux, laissaient à désirer. Mais dans l'ensemble, la qualité exceptionnelle des effets spéciaux font en sorte que The Blob est fort probablement l'une des meilleures versions des trois que nous avons eues jusqu'à présent. Le film est beaucoup plus violent que l'original, beaucoup plus spectaculaire que l'original, il est beaucoup plus cynique que l'original et on porte un peu plus d'attention aux détails. Beaucoup plus que les deux premiers films de la saga, parce qu'on explique, ou du moins on cherche à savoir les origines du Blob et comment que celui-ci fonctionne. On apprend également que le Blob est véritablement une créature qui est constituée d'acide. L'autre chose aussi qu'on voit, contrairement au film original et au deuxième film, on comprend maintenant la douleur des personnages lorsque ceux-ci se font digérer par la créature. Contrairement au premier ou au deuxième, où on ne va pas vraiment aller en détail sur qu'est-ce qui se passe avec le Blob et comment celui-ci digère les individus qu'il va avaler, bien, dans cette version-là, on les voit véritablement se faire liquidifier par l'acide dont la créature est composée. Du côté visuel, Chuck Russell met le paquet. On a d'ailleurs l'impression de voir un vidéoclip de 90 minutes, mais ça donne en sorte que visuellement, non seulement le film est attrayant, mais également son rythme va à un train d'enfer que vous n'avez vraiment pas l'impression d'avoir eu des temps morts. Cependant, ça amène des problématiques. D'abord, la relation entre les deux personnages principaux est quelque peu expéditive et donc elle n'est pas crédible. La conclusion aussi, à un moment donné, ça va tellement vite qu'on a l'impression que tout se place trop bien, puis notre héroïne devient la Rambo du film, alors que celle-ci était la petite fille tranquille au début du film. Donc, on ne voit pas vraiment l'évolution des personnages, ce qui est triste parce que ça enlève un petit peu la crédibilité du film. On aurait rajouté une demi-heure de plus au niveau scénarisation, puis je pense qu'on aurait pu être capable de montrer beaucoup plus facilement comment cette jeune femme a pu devenir aussi tough. Et justement, comment notre héros, qui est un rebelle, devient véritablement le héros de la situation. Kevin Dillon et Shawnee Smith sont pas à la hauteur de la prestation de Steve McQueen dans la version originale. Steve McQueen avait une prestance qui était difficile d'ignorer dans le film. Et le fait de pouvoir prendre le temps de le voir et de voir évoluer son personnage aidait à renforcer cette prestance-là. Ce qu'on n'a pas avec Dillon et Smith, parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps d'écran, et quand ils l'ont, bien, majoritairement, ils sont confrontés à la créature, donc soit qu'ils s'échappent ou encore sont pris dans des scènes d'action. Donc, pas vraiment des moments où on peut véritablement s'asseoir et commencer à développer les personnages. Au niveau de la trame sonore, c'est le compositeur Michael Horrig qui nous a donné la musique. Une musique qui, par moments, fait très Jerry Goldsmith. D'ailleurs, j'ai été capable de reconnaître un thème modifié de la musique de Goldsmith pour le film Capricorn 1 avec pratiquement le même tempo. Il a juste changé la hauteur des notes. Donc, un petit peu décevant comme trame sonore en général. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous avez le CD original qui a été sorti sous l'étiquette Film Track en 1988. Vous avez l'étiquette La La Land qui a sorti une édition limitée à 2000 exemplaires en 2011. Et vous avez le vinyle qui est sorti en 2018 sous l'étiquette One Way Static Records. Maintenant, pour les cotes artistiques, du côté de The Stuff, Mediafilm donne une cote 5. Moi également, je donne la même cote. Un film qui aurait pu être meilleur si on avait retravaillé un petit peu le scénario puis si on avait eu un montage qui aurait été moins botché. Mais quand même, un film qui est intéressant à regarder. Du côté de la régie du cinéma, on considère que le film est très indicatif. Moi aussi, je considère que c'est un 14 ans pour certaines scènes de violence qui pourraient peut-être être impressionnables pour un jeune auditoire. Du côté de The Blob, eh bien, Mediafilm donne une cote 5, donc moyen. Je donne la même chose aussi, un 5. Principalement, j'aurais donné un 4 si ça n'avait pas été du dernier 15-20 minutes qui semble être très précipité parce que le contenu du film et tout le rythme du film au début est très bien agencé. Mais ça, et l'inégalité de la qualité des effets spéciaux font en sorte que ça donne un film qui a de l'air infini. Donc, j'y donne une cote 5 à cause de ça. Au niveau de l'âge, eh bien, du côté de la régie du cinéma, on y va avec un 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec un 14 ans ferme. Très violent comme film. Donc, pas nécessairement à dire que ça va être dégoûtant, mais il y a des séquences qui sont assez impressionnantes à regarder. Donc, un film qui n'est pas nécessairement pour tout le monde. Maintenant, on va parler disponibilité de format DVD et Blu-ray. Du côté de The Stuff, eh bien, le film est disponible en DVD et en Blu-ray. Et du côté de The Blob, vous avez bien sûr la version DVD, la version Blu-ray, français et anglais. Et vous avez également ce fameux coffret que je vous ai parlé dans la dernière émission. Vous avez bien sûr le Blob, Beware the Blob et la version de The Blob 1988. Donc ça, c'est probablement le meilleur coffret à aller chercher parce que vous avez la trilogie à l'intérieur du même coffret. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans lequel vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double. Tonight, tonight, double future.